Une semaine d'actualité, Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue. Nous sommes ensemble pour revivre les moments forts de la semaine écoulée avec une invitée qui, comme nous, aime à donner à voir et à comprendre ce qui se passe au-delà des frontières. Nous irons aujourd'hui de Kaboul à Niamey en passant par Jérusalem grâce aux reportages et aux éclairages de la rédaction de RFI et de nos correspondants dans le monde. Bonjour Émilie Aubry.
Bonjour Chantal.
Depuis 4 ans, vous présentez chaque samedi à 19h30 sur Arte le Dessous des cartes, une émission culte créée par Jean-Christophe Victor et qui a inspiré un atlas géopolitique éponyme dont la nouvelle édition sort le 2 septembre chez Taillandier et Arte Éditions. D'abord, un mot sur l'émission qui fêtera ses 30 ans l'an prochain, je crois. Quel est le secret de sa longévité ?
C'est l'intuition géniale qu'a eue Jean-Christophe Victor au début de l'histoire d'Arte de considérer qu'il y avait une fascination universelle pour les cartes et pour la cartographie. Et qu'au fond, on n'avait rien inventé de mieux que de regarder le monde par les cartes. Il a eu ensuite une modernité folle, c'est de comprendre l'attrait pour les formats courts, avec son expérience d'enseignant, qui est qu'on ne peut pas, selon lui, qu'on ne pouvait pas capter l'attention d'un élève lambda plus de 10, 12, 15 minutes. Donc voilà, c'est-à-dire qu'avant tout le monde, il a inventé le format court et aujourd'hui encore, le Dessous des cartes dure 12 minutes. Alors bien sûr, moi je me suis inscrite avec beaucoup d'humilité dans cette succession-là, avec un profil très différent. Je ne suis pas universitaire, je suis femme, je suis plus jeune que lui, je suis journaliste.
Vous dites je suis une passeuse. Qu'est-ce que vous voulez faire passer ?
C'est-à-dire je ne suis pas une spécialiste. J'essaie de donner à voir et à comprendre. Vous l'avez dit, pour moi cette formule est presque un credo et c'est extrêmement important. Je considère qu'il y a une inculture géopolitique singulièrement en France, dû, alors je vais évidemment pas sur RFI, mais dû à un sous-traitement médiatique de ces sujets-là, donner à voir et à comprendre, c'est tout simplement pour toutes les générations et singulièrement pour les jeunes générations de les aider à sortir de ce que j'appelle le syndrome du village gaulois.
C'est-à-dire se contenter de voir l'actualité avec le petit bout de la lorgnette.
Oui, le petit bout de la lorgnette. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi une marque de fabrique du dessous des cartes. C'est les cartes, les faits, rien que les faits, les datas, rien que les datas. Ce qui a l'air des fake news, là encore, est singulièrement contemporain.
Mais vous avez apporté votre patte, vous avez modernisé quand même l'émission, et notamment les cartes qui s'animent.
Oui, alors ça, évidemment, c'est même sacrément une révolution. C'est-à-dire qu'on est passé de cartes non animées à des cartes animées, en effet. Le recours aussi à la photographie, qui pour moi était très important parce que j'ai cette espèce de conviction et de certitude qu'on emmène le plus grand nombre à la géopolitique par le voyage. Et pour faire voyager quelqu'un, que ce soit un jeune lycéen ou un universitaire, la photographie, qui est aussi le point de départ de chacun des chapitres de l'Atlas, ça me semble la bonne porte d'entrée. En fait, mon rêve un jour, c'est de faire un guide du routard géopolitique. Alors, c'est toutes ces introductions de chapitres qui sont des photographies, c'est justement l'idée, voilà, au lieu de parler directement de l'Éthiopie et de ce qu'est cette région africaine du monde aujourd'hui, on commence par visiter Addis Abeba en mode routard géopolitique. Donc j'ai en effet amené la photographie, j'ai aussi amené le recours à la 3D avec quelqu'un qui s'appelle Angèle Lenévé, qui est la directrice de production, qui arrivait en même temps que moi dans cette aventure et à qui la modernisation de l'émission doit beaucoup. Et puis une cartographie simplifiée, je ne veux pas qu'on passe 3 heures à regarder des légendes, il faut immédiatement tout comprendre. Et je pars du principe aussi que rien n'est acquis. Donc on recontextualise tout, les noms propres, les dates, on ne jargonne jamais. C'est pas une émission faite par des universitaires pour des universitaires. Le Dessous des cartes, aujourd'hui, c'est de 17 à 107 ans.
Alors, quels sont, à part le nom, les spécificités de l'émission que l'on retrouve dans cet atlas que vous avez écrit, réalisé avec le géographe Franck Tétard et le cartographe Thomas Ansart?
Ce livre, c'est le résultat de 4 années de travail de toute l'équipe du Dessous des cartes. Ça n'est évidemment pas un travail solitaire. Le Dessous des cartes, c'est une grande famille, vous l'avez dit, et c'est la rencontre entre plusieurs univers, c'est la rencontre entre des universitaires, parce qu'au démarrage de chaque émission, il y a une note que nous allons confier à un chercheur spécialiste de la région du monde à laquelle nous avons envie de nous intéresser. C'est des journalistes, et vous l'avez dit, c'est des cartographes, c'est des géographes, etc. Franck Tétard est un long compagnon de route de l'émission, puisqu'il travaillait déjà aux côtés de Jean-Christophe Victor. Aujourd'hui, il ne travaille plus avec nous au quotidien dans l'émission, mais quand je lui ai demandé si l'on pouvait renouer le partenariat, justement, pour renouer aussi avec cette tradition de l'Atlas, il a été tout de suite d'accord, et j'en étais très heureuse parce que, justement, de ce dialogue entre lui, l'enseignant, chercheur, géographe, et moi, la journaliste, a été vraiment très agréable et très fructueux. Donc on a regardé 4 années d'émission du Dessous des cartes depuis que j'en assume la présentation et la rédaction en chef, et on est allé faire un tri, un choix. Moi j'ai commencé le journalisme avec quelqu'un qui s'appelle Yvan Levaille et qui disait journaler c'est choisir. On s'est dit voilà, parmi toutes ces émissions, on va aller chercher les destinations qui permettent d'incarner, de représenter, de raconter les grandes tendances du monde qui vient.
Voilà, donc ces 28 destinations, elles vont d'Addis Abeba à Tombouctou, en passant par Wuhan, l'Amazonie, la Casbah d'Alger, le détroit du Bosphore. Donc ce ne sont pas forcément des capitales.
Non, bien sûr, pas du tout. Par exemple, pour le chapitre sur l'Arabie Saoudite, la destination que j'ai choisie, c'est Al-Ula, c'est-à-dire ce désert qui est situé au nord-ouest du royaume saoudien, que je trouvais très intéressant parce qu'il y a eu un grand voyage de presse organisé par MBS il y a quelques mois. Il a invité les journalistes absolument du monde entier. Il s'agissait de démontrer qu'au fond, Al-Ula ressemble un petit peu à Petra, qu'on essayait d'inventer ex nihilo, désormais, une histoire culturelle à l'Arabie Saoudite qui, pendant des décennies, n'a été connue que pour deux choses, bien sûr, c'est-à-dire sa fermeture absolue et le pèlerinage de la Mecque et le pétrole. Donc aujourd'hui, il y a cette volonté de MBS d'inventer un passé culturel à son royaume, précisément pour l'ouvrir au tourisme. Alors évidemment, ce sera un tourisme extrêmement encadré, avec cette fascination qu'il a pour le modèle de développement émirati. Donc voilà le type de destination qu'on choisit, parce que rien qu'en une photo, on peut déjà raconter beaucoup de choses sur ce que sont aujourd'hui les ambitions d'MBS.
Alors pendant le premier confinement, on a beaucoup parlé de ce que serait le monde d'après. Vous qui vous intéressez aux mutations, vous trouvez qu'il est différent le monde d'après, ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Est-ce qu'on est dans un entre-deux?
Alors c'est intéressant parce qu'en fait, pour la petite histoire, on avait achevé la rédaction de l'ouvrage en février 2020. On n'a vraiment pas eu de chance puisque donc un mois après, on a quasiment jeté le manuscrit à la poubelle. On s'est dit qu'on allait laisser passer cette pandémie historique et le reprendre. Et alors, pour cette première version du manuscrit, j'avais proposé à mon éditeur d'appeler le livre « Avant le monde d'après ». C'est-à-dire qu'il me semblait vraiment en effet qu'avant la pandémie, on était à l'orée ou à la porte de ce nouveau monde. Je crois qu'aujourd'hui, alors c'est un peu agaçant la répétition de ce vocable-là, le monde d'avant, le monde d'après, on les a tellement entendus ces dernières semaines et notamment dans nos univers médiatiques, mais je crois quand même que c'est un concept opérant. Alors je ne crois pas que le monde d'après soit brutal et que d'un coup on est projeté dans le monde d'après. Je crois qu'en revanche la pandémie, elle a accéléré des tendances qui étaient en germe dans le monde d'avant, qui après cette pandémie, puisqu'on est quand même malgré tout d'une certaine manière en train d'en sortir, nous apparaissent béantes. Je crois par exemple que la révolution numérique, cette fois-ci, nous sommes de plein pied dans tous les domaines dans cette nouvelle ère du numérique. Je crois aussi que le déplacement du pivot des relations internationales de l'Occident vers l'Orient a été accéléré par cette pandémie et que désormais, alors on va, j'imagine, parler de l'actualité afghane, c'est aussi d'une certaine manière ce que nous raconte l'actualité de ces dernières heures. Et puis je crois aussi qu'il y a une sorte, à l'occasion de cette pandémie, une sorte d'intensification de ce clivage, de ce schisme, de cette confrontation de plus en plus brutale entre les modèles démocratiques et les modèles autoritaires.
Pourquoi l'Asie est-elle désormais au centre du jeu géopolitique, pour reprendre le titre d'un des chapitres de l'Atlas?
Un peu dans la continuité de ce que je viens de vous dire, je crois. Je crois que là encore, ça n'est pas uniquement venu avec la pandémie, ça s'est accéléré et intensifié avec la pandémie. Mais enfin, Barack Obama, en 2008, le pivot asiatique, c'est déjà cela en réalité. C'est de considérer que ce déplacement du point névralgique des relations internationales vers l'Asie Pacifique, il était en cours déjà sous le mandat d'Obama. Et on voit bien aujourd'hui que dans le retrait des Américains d'Afghanistan, il y a notamment, évidemment, ça a été beaucoup analysé, décrypté, cette volonté de mettre le paquet sur cette zone-là du monde et de désengager en partie, en grande partie, les États-Unis du Moyen-Orient.
Est-ce que lorsqu'on s'attelle à un atlas, le plus difficile à faire, ce ne sont pas les cartes, dans la mesure où les frontières peuvent être discutées ou sont mouvantes dans les zones de conflit?
Alors ça, c'est évidemment un grand sujet. D'ailleurs, on va consacrer un numéro du Dessous des Cartes ces prochaines semaines aux différentes représentations du monde. Je crois que notamment pour les plus jeunes, c'est vraiment intéressant de leur faire prendre conscience qu'on ne regarde pas les mêmes planisphères et les mêmes atlas selon évidemment qu'on est un petit Français, un petit Allemand ou un petit Chinois, et que les Chinois, évidemment, ont des visions, ce qu'on appelle, nous, des visions sinocentrées, c'est-à-dire que l'empire du milieu est réellement au milieu sur les planisphères. Et puis, bien sûr, on a toutes les questions qu'on est obligé de se poser. Comment est-ce qu'on représente la Crimée? Alors, après, il y a des normes cartographiques, c'est-à-dire qu'on va assurer ces territoires de conflictualité, mais ce qui nous vaut régulièrement des lettres et des courriers de l'ambassade d'Ukraine qui nous dit, voilà, d'une certaine manière, par vos cartes, vous actez l'annexion de la Crimée par la Russie de Vladimir Poutine. Alors, on leur explique, voilà, que ce sont des codifications cartographique désormais un peu universelle. Cela ne veut pas dire qu'on reconnaît ou qu'on justifie l'annexion de la Crimée par la Russie de Vladimir Poutine, mais cela veut dire qu'on est obligé d'indiquer à notre lecteur qu'il s'agit aujourd'hui d'un territoire conflictuel. C'est un exemple.
<t'->
7 jours dans le monde.
Émilie Aubry, on va reparler tout à l'heure de cet atlas, le dessous des cartes, mais je vous propose maintenant de partir pour Kaboul. Kaboul ensanglanté jeudi après-midi par un double attentat suicide commis aux abords de l'aéroport et revendiqué par le groupe État islamique. Notre envoyé spécial dans la capitale afghane, Vincent Souriau, se trouvait non loin de l'aéroport. Il raconte.
On l'a entendu très distinctement, cette détonation. 17h37, heure de Kaboul. J'ai noté l'heure, une détonation, des tirs et quelques instants plus tard, des centaines de personnes qui ont rebroussé chemin devant nous en courant. Ça s'est passé devant Abbey Gate, la porte de l'abbaye. C'est comme ça que les Anglais surnomment cette porte qu'ils tenaient jusqu'ici, entrée qui était tenue par les forces britanniques et qui devait être transférée demain à l'armée américaine. On a vu des blessés, plus d'une quinzaine, à pied dans un premier temps, des hommes à la chemise ensanglantée qui se précipitaient pour quitter les lieux. Et quelques minutes plus tard, des victimes beaucoup plus gravement atteintes, des enfants inanimés, portés à bout de bras par leurs parents, les images que l'on connaît malheureusement dans ce genre de circonstances. La précipitation, des gens transportés dans des brouettes, tout ça dans un périmètre contrôlé par les talibans qui ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire crier et tirer en l'air pour disperser la foule. On a vu venir une demi-douzaine de patrouilles talibanes en renfort et au bout d'une grosse demi-heure, les premières ambulances, on a pu s'extraire rapidement en voiture. On a entendu en partant des abords immédiats de l'aéroport une autre détonation assez forte elle aussi. Je ne sais pas à l'heure où je vous parle combien de bombes ont explosé, mais potentiellement plusieurs, potentiellement une attaque coordonnée. Donc les services occidentaux qui avaient donné l'alerte ce matin avaient raison. Il y avait bien une alerte en cours, il y avait bien des kamikazes qui se préparaient à causer un nouveau drame à Kaboul. Pourquoi ? C'est la question qui se pose désormais, sans doute pour démontrer que la sécurité des talibans n'est pas à la hauteur et qu'ils ne sont pas capables de gérer un État comme ils le prétendent.
Le bilan de ce double attentat est lourd, près d'une centaine de civils tués. Les talibans affirment avoir perdu 28 hommes, tandis que Washington déplore la mort de 13 soldats américains. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2011 pour les troupes américaines en Afghanistan. Le président Joe Biden, très ému, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et il a promis des représailles.
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this.
À ceux qui ont mené ces attaques et à tous ceux qui souhaitent faire du mal aux États-Unis, sachez une chose, on ne pardonnera pas, on n'oubliera pas, nous allons vous traquer et vous faire payer. J'ai aussi donné l'ordre à mes généraux de préparer des plans opérationnels pour viser les responsables de l'État islamique et leur installation en Afghanistan. Nous agirons avec force et précision au moment et à l'endroit que nous aurons choisi. Voici ce que vous devez savoir. Ces terroristes ne gagneront pas. Nous allons évacuer les Américains et nos alliés afghans et notre mission va continuer. L'Amérique ne se laissera pas intimider.
C'est donc dans la hantise d'un autre attentat que les Américains continuent à superviser les évacuations de l'aéroport de Kaboul. Une course contre la montre qui s'achèvera mardi prochain, 31 août, date butoir du retrait américain du pays. Émilie Aubry, America is back, c'était le slogan de campagne de Joe Biden. Vu les événements de ces deux dernières semaines, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'interroger sur la pertinence de ce slogan? D'ailleurs, vous posiez déjà cette question dans votre atlas, de Donald Trump à Joe Biden, que reste-t-il du leadership américain ?
Oui, et je pense qu'on est qu'au tout début de nos analyses sur ce leadership américain que Joe Biden va de fait devoir réinventer, c'est-à-dire comment ne pas donner le sentiment qu'il s'inscrit dans la continuité de Donald Trump et en même temps comment prolonger des tendances qui désormais font partie de l'ADN américain. Comme vous, j'ai regardé jeudi soir les images absolument tragiques et chaotiques qui venaient d'Afghanistan, j'ai regardé cette intervention Joe Biden, il y avait bien sûr cette émotion et en même temps j'ai trouvé qu'il y avait une très grande assurance. C'est-à-dire comme s'il y avait une espèce de réaffirmation, de certitude qu'il prend la bonne décision en s'inscrivant dans les pas de Donald Trump et en retirant les troupes d'Afghanistan. Alors évidemment, il faut rappeler que cette intervention américaine, c'est la plus longue guerre américaine, que c'est plus de 2000 milliards de dollars, que c'est plus de 2000 soldats américains morts. Alors c'est évidemment dérisoire quand on se souvient du bilan au Vietnam. Enfin malgré tout, il y a tout ça dans la psyché américaine. américaine aujourd'hui. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir comment ces attentats de Daesh, évidemment, rajoutaient du chaos au chaos, de la confusion à la confusion. De toute façon, cette rentrée géopolitique, elle est complètement folle. On va, dans quelques jours, célébrer les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001 et au moment où on est en train d'assister au départ des Occidentaux de cette région afghane, qui il y a eu cette intervention américaine déclenchée précisément par le 11 septembre. On a assisté jeudi soir aussi, j'allais dire, à l'échec, en tout cas le début de l'échec d'un storytelling taliban. C'était très important pour les talibans de démontrer ces derniers jours qu'ils avaient des capacités pour gérer le pays, pour ramener le calme. On a vu, il y avait vraiment une communication talibane. D'ailleurs, on raconte qu'il y a des experts en communication pakistanais qui sont venus former les hauts dignitaires talibans, justement, avoir un discours comme ça très respectable. Et il y avait tout ce discours sur le retour au calme, que le calme était revenu dans les rues de Kaboul, etc. Tout cela a volé en éclats avec les attentats de Daesh, et c'était évidemment ce que recherchait Daesh dans cette histoire.
Alors depuis le 15 août et le retour des talibans au pouvoir, les femmes afghanes ont l'impression de vivre un cauchemar. Elles ne veulent pas se retrouver privées de leurs droits et de leur liberté. À Kaboul, elles rasent les murs ou sortent le moins possible. Certaines menacées préfèrent prendre le chemin de l'exil. D'autres n'en ont pas les moyens. Écoutez le témoignage de Hela, cette jeune fille de 21 ans, a confié sa détresse à Vincent Souriau.
Le premier jour, quand les talibans sont entrés dans Kaboul, ça m'a coupé le souffle. On a grandi en démocratie avec les réseaux sociaux, avec toutes les libertés. Mais maintenant, c'est fini. Je ne veux pas me couvrir. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements qu'ils veulent me faire porter ? Avec le jean que je porte, avec le voile que je porte, j'allais à l'université tous les jours. Quel est le problème avec ça ? Maintenant, ils veulent que je me couvre le visage, que je porte des tuniques longues et toutes noires. Mais pourquoi ? Moi, je refuse. Je n'en veux pas. Et c'est pour ça que je ne sors plus. Je ne veux pas leur faire plaisir. Mais maintenant, je n'arrive plus à manger. Je n'arrive plus à rien. J'étais une bonne élève. J'avais de si bons résultats à l'université. J'avais un si bon poste au ministère des Travaux publics avec un bon salaire pour aider ma famille. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Toutes mes études, tout mon passé. J'ai l'impression d'être au cimetière.
Émilie Aubry, votre réaction à ce témoignage poignant de cette jeune Afghane ?
C'est infiniment douloureux d'écouter ce genre de témoignages et je trouve qu'on doit les prendre en considération lorsqu'on pose la question, est-ce que ces 20 années sans les talibans n'ont servi à rien ? Est-ce que ces 20 années d'intervention américaine n'ont servi à rien ? On peut pas répondre simplement à cette question, précisément quand on entend ce genre de témoignages. Moi, je suis, voilà, comme tout le monde, c'est très banal, mais très attentive et très sensible à tous ces témoignages qu'on entend partout, parce que justement, ils donnent un visage et ils donnent des histoires sur ces conflits qui peuvent paraître tellement abstraits quand ils sont vus de notre petit confort français. Il y a tellement d'histoires tragiques. Il y a par exemple l'histoire de Taïeba Parsak, c'est-à-dire l'histoire de cette femme juge. Elle est juge en Afghanistan depuis 10 ans et elle sait qu'avec le retour des talibans, elle est condamnée à mort parce qu'aux yeux des talibans, elle représente et elle incarne exactement et précisément tout ce qu'ils détestent, c'est-à-dire quelqu'un qui, parce que les talibans sont partis et parce qu'il y a eu cette intervention américaine et la mise en place d'institutions, d'écoles, etc., la possibilité pour quand même un certain nombre de femmes d'accéder à l'école, au collège, au lycée, à l'université, et d'intégrer la machine étatique. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un début de service public, de machine étatique, d'institutions qui se sont mises en place. Je suis très, très, très touchée aussi par l'histoire de Shabnam Doran, qui nous touche évidemment, nous, en tant que femmes journalistes, qui présentait le journal télévisé sur la chaîne publique afghane RTA, et qui, quelques jours après l'arrivée des talibans, est sortie de chez elle pour aller, comme toujours, à son bureau présenter le journal, et qui, contrairement à ses collègues masculins, et alors qu'elle brandissait sa carte d'accès, n'a pas pu rentrer. Et ce soir-là, à sa place, sur le plateau de télévision, on a vu un homme barbu et on n'a plus vu Shabnam Doran. Et puis, je voudrais dire un mot de cette cinéaste, Sarah Mani, qui nous a beaucoup contactés ces derniers jours à Arte. Elle a réalisé le film « Mille Girls Like Me », qui a gagné de nombreux prix série et qui raconte l'histoire réelle hein, d'une jeune femme qui a été violée par son père, ancien taliban, dont elle a eu 2 enfants, et qui a décidé un jour de raconter son histoire à une émission de télévision. Et donc le documentaire raconte toutes les démarches qu'elle a faites qui ont abouti à l'emprisonnement du père. Et ensuite, la jeune femme a pu quitter l'Afghanistan. Sauf qu'avec le retour des talibans, le père violeur va être sorti de prison et il a d'ores et déjà dit qu'il allait menacer de près ou de loin toutes ceux et toutes celles hein, qui ont participé à ce documentaire. Voilà, le retour des talibans, ça signifie exactement ce genre d'histoire et il ne faut jamais l'oublier.
Est-ce que la communauté internationale, après le retrait des Occidentaux d'Afghanistan, aura des leviers pour faire pression sur les talibans, des leviers financiers par exemple, pour que les talibans respectent un minimum le droit des femmes?
Alors j'entends, on a toutes entendu les déclarations qui se voulaient rassurantes des talibans sur le fait qu'ils avaient changé, que les femmes allaient pouvoir travailler, mais enfin avec des conditions lorsqu'on lit entre des lignes, entre
les
lignes
qui sont quand même dans le
respect.
De l'islam,
de la charia, etc. Donc, on ne voit pas exactement ce que cela veut dire. Donc, il y a pour l'instant la vitrine rassurante des talibans. Je suis d'avance effarée, effrayée par tout ce qui va se passer dans quelques jours, quelques semaines, lorsque l'intérêt de l'Occident, de nos médias pour ces images venues d'Afghanistan, quand cet intérêt-là va tarir. Non, je pense qu'évidemment, ces populations, ces femmes vont être en danger. Il y aura des alertes de temps en temps, mais on ne peut qu'être inquiet pour elles.
RFI. On le présentait ces derniers mois comme le pays champion de la vaccination anti-Covid, mais le variant Delta est passé par là. Israël est aujourd'hui durement touché par le coronavirus. Les autorités sanitaires placent tous leurs espoirs dans la 3e dose du vaccin, jugée indispensable pour atteindre une forme d'immunité collective. RFI Jérusalem, Michel Paul.
Près de 10 000 contaminations quotidiennes depuis 2 jours, un taux de positivité qui dépasse les 6,5%. La 4e vague du Covid-19 frappe Israël de plein fouet. Depuis le début de la pandémie, 1 Israélien sur 9 a été touché par le virus. Seule bonne nouvelle, le nombre de malades graves reste stable et le facteur de reproduction continue à baisser, ce qui semble signifier que le pic de l'attaque du variant Delta est proche. Pour accélérer le processus, les autorités sanitaires ont abaissé à 30 ans ce mercredi l'âge minimal pour recevoir la 3e dose du vaccin Pfizer. Plus 1,5 million d'Israéliens ont déjà reçu cette nouvelle injection et selon des données du ministère israélien de la Santé, ceux qui l'ont reçu sont 10 fois plus protégés contre le coronavirus que les personnes qui n'ont reçu que les 2 premières. Une campagne de tests sérologiques pour les enfants de 3 à 12 ans lancée en début de semaine à grand fracas a pratiquement été abandonnée en raison de ses piètres résultats. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Émilie Aubry, la 28e destination de votre atlas, c'est Jérusalem, avec la photo d'un centre de vaccination, photo prise en janvier 2021. Pourquoi écrivez-vous que la pandémie, comme partout ailleurs, a mis à nu les forces et les faiblesses de l'État hébreu ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que Benjamin Netanyahou a voulu faire une force de cette campagne de vaccination menée tambour battant avec un accord très spécifique qu'il avait donné avec les laboratoires Pfizer. Et que dans un premier temps, cette offensive de soft power a été assez concluante puisque le monde entier regardait de façon un peu envieuse ce petit pays où la vaccination allait bon train, où il n'y avait pas de manifestation de vague de défiance et où on a eu le sentiment, bien avant nous, que la vie reprenait le cours normal. Alors là, aujourd'hui, évidemment, ça fonctionne moins bien. Il y a aussi les dégâts causés par ce variant. Donc, d'une certaine manière, on est de nouveau mis tous au même niveau. Et puis, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette arme de soft power, que Benjamin Netanyahou n'est pas le seul à avoir brandie à travers le vaccin, au fond, elle s'est révélée finalement inopérante, puisque ça n'a pas empêché Benjamin Netanyahou de devoir quitter le pouvoir et que c'est vraiment une nouvelle page politique qui s'est ouverte en Israël avec l'ultra-droitier nationaliste Naftali Bennett, qui lui a succédé au poste de Premier ministre. On sait que c'est une succession pendant 2 ans et qu'ensuite il devra être remplacé par le centriste Yair Lapid. Mais enfin, il s'est vraiment passé quelque chose qui, certainement, au-delà de la brutalité, des affaires de corruption, etc., qui encadraient depuis un certain nombre d'années Benjamin Netanyahou, tout cela, certainement, a été aussi accéléré par la pandémie de Covid-19. Donc, on a en effet sans doute affaire à un cas d'école de pays où les tendances déjà en germe dans le monde d'avant israélien ont été intensifiées par cette pandémie.
Une nouvelle page politique s'est ouverte, mais pas forcément une nouvelle ère.
Non, en effet. Alors, c'est la fin de l'ère Netanyahou qui était un préalable pour tous ceux qui souhaitent qu'enfin quelque chose se passe dans ce conflit qu'on dit conflit gelé ou conflit qui a basculé en catégorie secondaire. D'ailleurs, il est intéressant aussi de voir comment on a assisté au réveil de ce conflit israélo-palestinien qu'on disait oublié avec cette guerre éclair de 11 jours en mai dernier entre le Hamas et l'aviation israélienne. Guerre éclair, mais qui a eu cette vertu de remettre la question israélo-palestinienne au cœur du débat géopolitique. Rien n'est résolu, mais il y avait ce préalable pour que quand même quelque chose se passe, se bouge, ou qu'au moins le débat reprenne. Il y avait la nécessité du départ de Netanyahou. Après, de là à ce qu'on en vienne enfin à reprendre ce scénario de la solution à deux États, vous avez raison de dire qu'on en est encore bien loin.
Sept jours en Afrique.
Pas une semaine sans au moins une attaque terroriste au Sahel. Au Niger, 16 militaires sont morts mercredi dans l'assaut donné par des djihadistes présumés de Boko Haram à la localité de Barwa. Mais aucun civil n'a été blessé ou tué. Les forces de défense ont résisté et repoussé les assaillants qui ont perdu une cinquantaine d'hommes. Barwa, symbole de l'opération Retour au village, lancée par les autorités nigériennes en juin. Près de 26 000 personnes ont été reconduites dans 19 villages et les résultats sont plutôt encourageants pour l'instant. L'attaque de mercredi ne semble d'ailleurs pas avoir ébranlé la volonté des habitants de Barwa. Mara Mamadou est le coordinateur des organisations de la société civile dans la région de Diffa. Il répond à Guillaume Thibault.
Vous savez, il n'y a pas de risque zéro. Cette population sait pertinemment qu'il y aura des attaques ou des représailles, mais elle a préféré retourner, rester. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas vu de retour dans le sens contraire. Mieux, après l'attaque, les populations sont restées à Barwa pour montrer qu'ils veulent continuer à rester, ils veulent croire à la capacité de nos FDS et à la volonté de l'État de les protéger. C'est l'État même qui dit « retournez vous asseoir, nous allons vous protéger ». Le discours a changé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument braver la peur, mais aussi résister. La communauté a demandé elle-même de retourner. Maintenant, lâcher ce courage, allez nous ramener à la case de départ. Donc, cette communauté, cette population a bien compris qu'il faut résister et ils ont résisté. Moi, je reste optimiste que nous allons y arriver.
Deux arrestations qui font du bruit au Mali. L'ancien Premier ministre Soumeilou Boubeï Maïga et l'ex-ministre de l'économie, Boiré Fili Sissoko, ont été jeudi incarcérés et inculpés, notamment de corruption, faux et usage de faux ou encore de favoritisme. Les précisions de David Bachet.
Intermédiaires douteux, surfacturation, validation de dépenses insoutenables pour le budget national, les dossiers de l'achat de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire ont scandalisé le Mali et défrayé la chronique pendant plusieurs années, sans que jamais aucun responsable ne soit jugé. Aujourd'hui, la soif de justice des Maliens est grande et les promesses formulées par les autorités de transition, lutter contre la corruption et contre l'impunité, sont incontestablement celles que tous voulaient entendre. C'est une procédure illégale, du brigandage judiciaire, juge pourtant hors micro, un magistrat qui suit de près le dossier. En effet, la profession conteste la manière dont la Cour suprême s'est emparée d'affaires censées être traitées par la Haute Cour de justice, seule compétente selon les textes pour juger des ministres. Une méthode qui alimente l'argumentation des personnes mises en cause. Après son inculpation, les avocats de Soumeilou Boubeï Maïga ont décidé de ne faire aucun commentaire. Mais quelques heures plus tôt, ils dénonçait une chasse aux sorcières menée par les autorités de transition et par une justice aux ordres.
La mort d'un dictateur, l'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé du Covid-19 mardi à Dakar à l'âge de 79 ans. Hissène Habré aura dirigé le Tchad d'une main de fer pendant 8 ans, de 1982 à 1990. 8 ans d'un régime qui a fait au moins 40 000 victimes selon une commission d'enquête tchadienne. Condamné en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est au Sénégal qu'Hissène Habré purgeait sa peine de prison à perpétuité. Son procès en 2015 aura marqué l'histoire de la justice africaine, Victor Moria.
La stratégie d'Hissène Habré et de ses avocats pendant le procès est simple, obstruction et mutisme. Obstruction parce que l'ancien président a d'abord dénoncé une structure juridique illégale et a déclenché des mouvements de ses soutiens dans les rues de Dakar. Il a ensuite refusé de se rendre aux audiences. Le 7 septembre 2015, il est amené de force dans la salle, criant et se débattant le poing levé. abat l'impérialisme. Les images sont hallucinantes, on y voit Abré enturbanné et en boubou blanc porté par 6 policiers sénégalais vers le box des accusés. Durant le procès, Hissène Abré est ensuite resté mutique, muet, la bouche dissimulée par son turban, les yeux cachés derrière des lunettes noires. Son attitude est désinvolte et cette stratégie se retournera contre lui au fur et à mesure des témoignages de victimes à quelques mètres de lui qui racontent les horreurs et les tortures subies dans les cachots secrets de N'Djamena ou ailleurs dans le pays. De leur côté, ses avocats plaident la non-implication de leurs clients. Selon eux, la DDS, la police politique d'Abré, était sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur et non sous celle du président. Ils décrivent Hissène Abré comme un patriote, défenseur du Tchad face à l'agression libyenne. Mais les témoignages, trop nombreux, achèveront de convaincre les juges de la culpabilité de l'ancien président tchadien, qui sera condamné en première instance et en appel à la perpétuité.
Émilie Aubry, dans votre atlas Le Dessous des Cartes, vous appelez l'Afrique le continent des possibles et des impossibles. Mmh. Pourquoi ?
Bah de même qu'il y a les afro-optimistes et les afro-pessimistes. Voilà, donc nous, on a choisi plutôt de se ranger dans la catégorie des afro-optimistes parce que comme vous, je crois, on a une affection gigantesque et une admiration folle pour ce continent qu'on connaît si mal. Et nous, les premiers, d'abord, quel joli pied de nez au destin de voir comme ce continent, au fond, s'est montré résilient face à cette pandémie. Alors, il ne faut pas avoir de jugement hâtif et on verra ce que nous réserve l'avenir. Mais enfin, le fait est qu'il y a une résilience de l'Afrique, alors qu'on commence à savoir un petit peu expliquer, d'abord parce qu'il y a la jeunesse et la vitalité de cette population et de cette démographie, et puis parce qu'au fond, il y a eu des réactions dans un certain nombre d'États qui ont montré une très bonne culture du risque et de la gestion de ce type de fléau. Donc ça, c'est évidemment vraiment intéressant. On sait bien aujourd'hui qu'en termes de démographie, de vitalité de population, de jeunesse, de ressources, il y a cette possibilité que l'Afrique soit l'Asie de demain. Et ça, évidemment, intellectuellement, géopolitiquement, c'est complètement passionnant. Évidemment, ensuite, il y a toutes les questions qui se posent. On voit bien aussi qu'on assiste au recul des influences occidentales. On pourrait parler, évidemment, de la France-Afrique, puisque vous parliez à l'instant du Tchad et de la mort d'Hissène Abré ces derniers jours. On voit qu'il y a de nouvelles influences qui sont de nature très différente. On parle maintenant aussi de la Chine-Afrique. Il y a comme ça un certain nombre de défis qui se posent, des questions qui restent abyssales et un peu vertigineuses, avec le recul de cette présence occidentale, est-ce qu'on va assister à une accélération, une intensification de l'islamisation et de la djihadisation du continent ? Et quelle sera alors notre attitude ? Et puis il y a bien sûr la préoccupation pour l'enjeu démocratique. On parlait d'Hissène Abré en effet à l'instant. Que sera l'enjeu démocratique dans l'Afrique de demain ?
Et alors, à travers le Mali se pose la question de l'interventionnisme étranger, hein, la même question qu'en Afghanistan. En l'occurrence, pour le Mali, ce sont les opérations extérieures de la France qui sont sur la sellette. En juin, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane pour début 2022. Ce n'est pas un départ, mais un redimensionnement des troupes françaises. Est-ce que, malgré tout, ce n'est pas une façon de se désengager progressivement d'une guerre qui, comme en Afghanistan, est ingagnable?
Oui, moi je trouve vraiment intéressant de lire les analyses de ceux qui établissent ce parallélisme entre ce qui est en train de se jouer en Afghanistan avec le départ des Américains et au-delà des Occidentaux et ce qui est sans doute en train de se jouer aussi dans cette partie-là de l'Afrique. Même si vous l'avez dit, il y a tout un jeu sur les mots et en ce qui concerne la fin de l'opération Barkhane, on ne parle pas de départ mais de redéploiement ou de reconception. Et voilà, évidemment, il faut savoir regarder le dessous des cartes sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Il est certain que la France est en train de devoir faire évoluer sa politique africaine. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron, mais c'est sans doute intensifié par le mandat de ce jeune président, on l'a beaucoup dit, qui n'a pas connu toute la période des colonisations et des décolonisations. Après, il faut aussi rappeler que cette opération Barkhane, c'était plus de 5000 militaires et puis que progressivement, ces opérations, elles ne se sont pas déroulées uniquement dans un cadre national, qu'elles se sont déroulées sous l'égide de l'ONU, de l'Union européenne, de forces multinationales. Donc on va voir maintenant si justement ces forces-là, ce G5 Sahel est réellement capable de se prendre en main. Moi j'aime beaucoup ce que dit Antoine Glaser sur l'Afrique. Il est venu le temps de laisser l'Afrique se débrouiller par elle-même et d'inventer son destin avec la part de risque que cela recouvre. Reste maintenant à savoir comment nous, occidentaux, nous regarderons cette évolution de l'Afrique. Est-ce que nous resterons les bras croisés à observer cette Afrique justement construire son propre destin ou ou est-ce que nous continuerons d'en être d'une manière ou d'une autre, et en tout cas d'une manière qui ne sera pas la même que dans le monde d'avant.
Et cette volonté de se prendre en main, d'assumer son destin, c'est un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure dans la bouche de Mara Mamadou, ce coordinateur des organisations de la société civile dans la région de Diffa, qui faisait preuve d'optimisme. C'est rare d'entendre ce genre de témoignage.
Oui, en même temps, je crois que l'optimisme, enfin, c'est toujours idiot de réduire un continent, un état d'esprit ou un caractère, mais je crois que tous ceux qui connaissent bien l'Afrique disent que cet optimisme, il existe sur le continent africain, là où nous pouvons parfois avoir une grille de lecture occidentale très alarmiste, très anxiogène, etc. Cet optimisme africain, il existe, bien sûr. Et puis, il y a un mouvement intellectuel africain qui est absolument prolifique, il est vraiment intéressant de suivre. Donc oui, c'est vrai, nous, avec cette Atlas du dessous des cartes, et de manière générale au dessous des cartes, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle ou qu'on ne parle pas des fléaux africains, mais on fait le choix de l'afro-optimisme.
Alors on va parler maintenant du Maghreb. Après des mois de tensions croissantes, l'Algérie a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. Alger a invoqué des actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc à son encontre. Le fond du problème entre les frères ennemis du Maghreb reste la question du Sahara occidental. Alors quelles seront les conséquences de la rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc? La réponse de Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, interrogé par Claire Fage.
Maintenant, le Maroc est désigné par l'Algérie comme un ennemi idéologique et politique, accusé de fomenter des complots. Il y a vraiment une volonté claire d'aller au clash, de tendre au maximum l'élastique de ces relations, qui étaient déjà très tendues. Il est vrai que régulièrement, les deux États voisins menacent d'utiliser les grands moyens, qu'ils ont d'ailleurs à leur disposition. Mais très honnêtement, on n'en est pas là. D'autant plus qu'il faut quand même le souligner, je serais très étonné que le peuple algérien et d'ailleurs le peuple marocain souscrivent à cette stratégie de la tension. Ce sont des peuples qui sont en grande difficulté, notamment le peuple algérien, on l'a vu à l'occasion des incendies. Donc je crois que c'est le dernier de leurs soucis que ces affaires-là. Mais manifestement, un petit groupe à la tête de l'État algérien y attache beaucoup d'importance et utilise cette situation fragile sur la scène internationale pour essayer de faire une diversion politique, c'est certain.
Émilie Aubry, vous êtes d'accord avec l'analyse de Pierre Vermeren? Dans votre atlas, vous consacrez une entrée à l'Algérie dans l'attente sans fin d'une nouvelle ère.
Oui, d'ailleurs, c'est parfois assez terrible et assez désespérant de voir les constantes dans ce pays et dans cette région-là du monde. Moi, je ne crois pas du tout que cette rupture des relations diplomatiques, au fond, soit réellement un événement nouveau. Au fond, on est dans le continuum de ce que sont les relations entre l'Algérie et le Maroc depuis 1962, depuis les indépendances. Je crois que quelqu'un disait que, au fond, entre ces deux pays, les relations n'avaient jamais cessé d'être des montagnes russes qui alternent le chaud, mais un chaud qui n'est jamais bouillant, et un froid qui, lui, peut souvent être glacial. Voilà, bon, bah là, on est dans une époque de froid glacial. C'est d'ailleurs intéressant de relire ce que disait le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, lorsqu'il a voulu justement expliquer cette rupture des relations diplomatiques. Il a dit « Il est historiquement établi que le royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles. » Donc, c'est vrai qu'on voyait bien, juste avec cette déclaration, qu'on s'inscrit dans le temps long, dans un temps qui remonte à 1962, avec évidemment la question du Sahara occidental, qui a depuis maintenant des décennies été le caillou dans la chaussure des relations entre Rabat et Alger. De toute façon, les frontières sont fermées depuis très longtemps. Il faut un visa quand on a un Algérien qui veut aller au Maroc et quand on est un Marocain qui veut aller en Algérie. Et ça remonte à 1994, lorsqu'il y avait eu, vous savez, cet attentat perpétré dans un hôtel de Marrakech, notamment par trois franco-algériens. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans le temps long de relations qui, depuis des décennies, sont franchement mauvaises.
Sept jours en France.
On dit qu'on est l'un des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Elle se les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours.
Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre prochain, sur décision d'Emmanuel Macron. Chanteuse, résistante en France pendant la Seconde Guerre mondiale, militante pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60 aux côtés de Martin Luther King, Joséphine Baker sera la 6e femme et la première femme noire à reposer au Panthéon aux côtés de Victor Hugo, Jean Jaurès, Marie Curie ou encore Simone Veil. La réaction de l'historien camerounais Achille Mbembe, joint par Penaï Traoré.
Si effectivement nous voulons imaginer un monde au-delà de l'idéologie coloniale, laquelle, on le sait, postulait l'idée d'une supériorité occidentale naturelle, et des personnages comme Joséphine Baker ont lutté contre cette idéologie. On sait par ailleurs que cette idéologie, l'idée de la supériorité occidentale naturelle, elle flotte toujours dans l'air. Et il ne suffit pas de proclamer sa foi en l'universalisme. Pour la déraciner, il faut des gestes. Et la panthéonisation de Joséphine Baker participe, je dirais, de ces gestes. Elle ne suffira pas à elle toute seule à effacer les injustices du passé, mais au moins elle crée les conditions d'une nouvelle rencontre et d'un dialogue d'égal à égal.
Joséphine Baker au Panthéon, il était temps, Émilie Aubry.
Je ne sais pas si on peut dire il était temps parce que au fond ça surprend un petit peu tout le monde cette décision. Voilà, on va pas faire de la politique, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que ça a une certaine allure de faire rentrer Joséphine Baker et qu'il y a comme ça un côté surprenant qui est assez. Moi j'aime bien essayer d'imaginer un dialogue au Panthéon entre Simone Veil et Joséphine Baker. J'aime beaucoup aussi ce que dit la famille de Joséphine Baker qui dit qu'elle souhaite une panthéonisation qui sera sous le signe de la fête, c'est-à-dire que 3 jours festifs où on va entendre chanter Joséphine Baker ou on va entendre cette voix tellement joyeuse. Et puis pour moi, Joséphine Baker, il y a un documentaire d'Arte qui le montre très bien. Joséphine Baker, pour moi, c'est cette femme qui, en août 1963, vêtue de l'uniforme de la France libre, est la seule femme à s'exprimer aux côtés de Martin Luther King devant une foule pour la marche pour les droits civiques à Washington qui mêle des blancs et des noirs. Et il faut revoir cette image pour comprendre la richesse du parcours de cette femme-là, qui est née en 1906 dans le Missouri, qui arrive en France de façon comme ça un peu accidentelle, qui s'auto-caricature et surjoue le rôle de la femme noire des colonies, aguicheuse pour le colon blanc, et qui va ensuite complètement le retourner pour prendre en dérision ces blancs qui la regardent de cette façon-là. Au fond, elle est d'une modernité folle, Joséphine Baker, et quelle bonne idée, quelle belle idée qu'elle vienne au fond déringardiser nos cérémonies toujours un peu corsetées de panthéonisation.
J'ai du d'amour, mon pays est Paris.
La course à la présidentielle avec une surprise à droite du côté des Républicains. Laurent Wauquiez jeudi a jeté l'éponge. En revanche, Éric Ciotti et Michel Barnier ont décidé de se lancer dans la bataille. Émilie Aubry, vous aimeriez qu'on parle davantage de géopolitique pendant la campagne qui s'annonce donc pour la présidentielle de 2022?
Ben oui, évidemment. Et puis c'est un peu pour ça qu'on fait sur Arte une émission comme Le Dessous des Cartes ou qu'on a un journal très international, etc. C'est-à-dire sur une chaîne qui, par nature, n'est pas franco-française, mais franco-allemande et européenne. On essaye en permanence de se souvenir que la France n'est pas un village gaulois et qu'on s'inscrit dans le vaste monde. Il se trouve qu'en ce moment, et je m'en réjouis, les ouvertures de journaux de grandes chaînes ouvrent sur l'actualité afghane. J'espère que ce n'est pas seulement parce qu'on est dans le creux de l'actualité estivale. Je crains en effet que d'ici quelques jours, sans doute, on va rentrer dans le dur de cette campagne présidentielle. On va revenir à des enjeux franco-français. Je dois vous dire que je suis parfois assez choquée qu'on puisse avoir la même gravité de ton pour parler de ce qui se passe en Afghanistan et pour parler de ces enseignants qui s'inquiètent de ce que va être la rentrée scolaire sous le signe du variant Delta. Je dois dire qu'il y a parfois une espèce d'ethnocentrisme et d'incapacité quand même à mesurer les niveaux de gravité qui me choquent. C'est pour ça qu'on a cette chance, vous, de travailler à RFI et moi, de travailler pour une émission comme Le Dessous des Cartes, c'est de ne jamais oublier que nous sommes un petit pays dans le vaste monde. Vous savez, c'est la phrase de Flaubert que je cite d'ailleurs dans la préface du livre, c'est qu'il faut voyager parce que voyager, ça rend humble.
Et vous constatez avec votre émission, avec les retours que vous avez, que le public s'est élargi, que l'émission est devenue maintenant presque transgénérationnelle.
Mais c'est-à-dire, je crois surtout qu'en fait, cette espèce d'ethnocentrisme là, dont on était en train de parler, ou de syndrome du village gaulois, c'est pas du tout quelque chose qui caractérise les générations d'après, notamment les 20-35 ans qui, eux, sont pleinement nés dans la mondialisation, au fond. Donc, ils savent très bien, qui vivent avec ces interdépendances, qui ont parfaitement compris qu'ils s'inscrivent précisément dans ce monde-là. Moi, je suis très frappée par cette génération, alors qui nous regarde beaucoup sur le numérique. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Dessous des Cartes, c'est à la fois un rendez-vous à l'antenne le samedi soir à 19h30 et puis des contenus spécifiques concrets pour le numérique avec une interview carte sur table en lien avec l'actualité internationale qu'on poste tous les mercredis sur notre chaîne YouTube.
C'est la leçon de géopolitique.
Voilà, exactement. Notre chaîne YouTube, elle compte 350 000 abonnés en moins de 2 ans. Donc, ça dit vraiment quelque chose. Sur YouTube, on sait que c'est des jeunes qui nous regardent. Je crois que cette jeunesse-là, elle est devenue adolescente avec les attentats de 2015. Donc, elle a parfaitement compris que l'actualité irako-syrienne, elle pouvait finir par avoir des répercussions dans une salle de concert parisienne. La pandémie, elle a intensifié cette prise de conscience. Donc, je crois qu'il y a un appétit gigantesque de géopolitique chez ces jeunes générations-là. On en bénéficie avec cette audience qui va croissante et ça fait évidemment infiniment plaisir. Mais je crois qu'au-delà de notre petite histoire à nous, ça dit quelque chose de très positif sur le monde qui vient.
C'est lui qui, de ses baguettes magiques, aura donné le groove au plus grand morceau des Rolling Stones. Batteur de légende, le discret Charlie Watts s'est éteint mardi à 79 ans, José Mourinho.
Batteur atypique, Charlie Watts tenait les baguettes à l'envers en frappant avec le gros bout. Les coups de semonce de Satisfaction, c'est lui, tout comme les roulements trépidants de Get Off My Cloud, la frappe cinglante de Paint in Black ou le rythme syncopé de Missio. Discret et un brin dandy, il brillait par sa modestie et un style inimitable. Charlie Watts menait les Rolling Stones à la baguette depuis 58 ans. Le Britannique vient à la musique par le jazz dès l'âge de 13 ans. Autodidacte en batterie, il apprend à jouer à l'oreille et en observant les gestes des batteurs dans les clubs de jazz de Londres. Tout au long de sa carrière rock'n'roll avec les Rolling Stones, il continue en parallèle le jazz, enregistrant même plusieurs albums à son nom. Adoubé comme l'un des meilleurs batteurs de sa génération, il reconnaissait avoir eu plusieurs fois envie de quitter les mythiques Rolling Stones. Mais Charlie Watts a su tenir les baguettes jusqu'au dernier battement.
C'est sur Emotional Rescue des Stones que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Émilie Aubry, d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
L'Atlas géopolitique, le dessous des cartes, le monde mis à nu, sortira le 2 septembre chez Taillandier et Arte Éditions. Et l'on vous retrouve ce soir à 19h30 sur Arte pour votre émission hebdomadaire Le Dessous des Cartes, consacrée à la Colombie, un pays révolté. Merci à Sophie Janin qui a réalisé cette émission, à retrouver sur notre site internet rfi.fr. ou sur notre appli RFI Pure Radio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dimanche à 20h40 heure de Paris pour Géopolitique. Un scénario à l'Afghan est-il possible au Sahel ? Nous en débattrons avec Niagale Bagayoko, Bakary Samb et Yvan Guichawa. D'ici là, portez-vous bien. Géopolitique.